Bonjour à tous. Dans beaucoup de choses qu'on a partagées, il y a un problème d'identité. Et ça apparaîtra aussi dans ce que je vais partager ce matin. Le thème de mon enseignement, c'est pour le bien du corps du Christ. C'est la rentrée bientôt. Pour le bien du corps de Christ, chacun doit se mettre à sa place et mettre l'autre à sa place. Il y a deux personnes qui m'ont beaucoup aidé pour cet enseignement. Il y a Claire, qui mercredi dernier à la prière priait pour moi, disant, voilà, je suis un canal et que Dieu modifie ce qu'il y a à modifier dans mon enseignement. Et quand je priais jusqu'à ce matin, je me plaçais dans cette situation et ça m'a permis d'avoir à modifier et apporter ce que je considérais comme un plus à cet enseignement. Je dois aussi être reconnaissant à Charles, qui, hier, dans notre réunion de la maison d'Élie, a abordé a utilisé une expression que nous connaissons tous, hein, le vase d'argile, qui m'a aidé à mettre un mot sur un aspect de mon enseignement. Donc on voit ici que dans la vie chrétienne, on a besoin des uns et des autres. Hein, en tant que croyant, on a besoin de Dieu, mais on a aussi besoin du corps de Christ. Donc il y a trois aspects qu'on ne peut pas négliger. Un chrétien ne peut pas simplement dire, voilà, je vis simplement dans ma relation à Dieu, sans tenir compte du corps. Il ne peut pas dire non plus, je vis dans ma relation au corps sans tenir compte de Dieu. Et puis, il ne peut pas non plus dire, bon, ben, il y a Dieu, le corps, donc les trois sont ensemble. Hein, ils ne peuvent pas fonctionner séparément. Un autre aspect dans la vie chrétienne, c'est dans l'Église, il arrive que certains croyants ne veuillent avoir affaire qu'au pasteur. Les autres ne comptent pas. Donc quand le pasteur veut avoir comme interlocuteur que le pasteur. Donc là aussi, il y a trois dimensions. Par rapport à un chrétien, il y a le pasteur, la relation au pasteur. On ne peut pas simplement privilégier cette relation-là au détriment du reste du corps. On ne peut pas non plus simplement privilégier la relation par rapport au corps sans tenir compte du pasteur. Vous voyez, donc il y a une dimension à trois. Nécessité de trois pour que les choses fonctionnent normalement. Et je fais un clin d'œil à André, il utilise un terme assez compliqué pour expliquer tout ça, c'est la trialectique. Donc le dialogue à trois. Il faut nécessité de trois pour que le système fonctionne bien. Donc la vie chrétienne a cette dimension-là. Et en cette période de rentrée, il y a également une situation qui nécessite de tenir compte de trois paramètres. Dans le cas des jeunes, par exemple, il arrive que les parents disent, eh bien, tu ne tiens pas compte de tes camarades, hein, tu considères que ta leçon, hein, ta relation avec le professeur. Mais j'ai aussi tenu ce langage, mais c'est une erreur, parce que un enfant doit s'intégrer dans le groupe. Il doit tenir compte du groupe là, sinon c'est compliqué à gérer. J'ai un fils qui a été en classe préparatoire et il y avait un de ses camarades dont le groupe se moquait souvent. Et puis un vendredi, on s'est moqué de lui. Le week-end, il s'est suicidé. Et je connais pas mal j'ai eu affaire à beaucoup d'élèves qui volontairement travaillent mal pour pouvoir s'intégrer au groupe classe, pouvoir être acceptés par le groupe classe. Ça veut donc dire que le langage qui consiste à dire bon, ne t'occupe pas du groupe, non, c'est pas bon. Je pense qu'il faut aider le jeune, l'enfant, à s'intégrer dans le groupe classe. Hein, donc là aussi, il y a trois dimensions. Il y a l'enfant, il y a le groupe classe et puis il y a le prof. Donc on est aussi dans une situation de dialectique où il faut tenir compte des trois paramètres pour que la personne puisse avancer. L'autre aspect, c'est la vie de famille. Le père, la mère et les enfants. Il peut arriver que l'un des parents ait des relations fusionnelles avec les enfants en ignorant le père. Bon, là, c'est pas bon. D'autres cas où le père et la mère s'intéressent à leurs relations, ignorent les enfants. Là aussi, c'est pas bon. Et donc, là aussi, il y a une nécessité de prendre en compte les trois paramètres pour que le système fonctionne bien. On est aussi dans ce cas que André appelle la trialectique et qui cause beaucoup de problèmes de compréhension. Donc, voilà quelques exemples simples qui permettent de simplifier ce concept. Bon, ça va également nous aider dans ce que nous avons à faire. Donc, je disais que pour le bien du corps du Christ, chacun doit se mettre à sa place et mettre l'autre à sa place. Et le Seigneur a pris cette allégorie du corps, où le chrétien représente le corps du Christ. Je trouve que c'est une image très parlante de la manière dont nous devions fonctionner. Alors, si je prends par exemple le cas de la mastication, vous savez, les dents qui rentrent en jeu, il y a d'abord les yeux qui voient l'aliment, qui, à un moment donné, il y a un premier discernement. Ensuite, vous avez les mains qui prennent l'aliment. Il y a la langue, le palais, qui apprécie le goût. Alors, si ça se passe mal, il rejette. Donc, il y a un peu de discernement là, qui se passe. S'il donne l'accord, alors vous avez les dents qui vont, n'est-ce pas, mastiquer. Ensuite, le gosier fait rentrer dans le système digestif qui va également faire fonctionner l'ensemble. Dans tout ce dispositif, chaque membre agit sans se demander s'il est plus ou moins important qu'un autre membre. Pas son problème. Il fait ce qu'il a à faire. Aucun membre ne se décharge sur les autres et ne cherche à accaparer l'action des autres. Ça se fait de façon, comment dire, automatique. Chacun fait ce qu'il a à faire. Si lors de la mastication, une dent agresse la langue ou une lèvre, tout le corps compatit. Hein? Aucun membre ne critique ni n'en veut à la dent. Vous voyez, tout le reste du corps fonctionne de façon automatiquement normale. Donc, en principe, c'est comme ça qu'on devrait fonctionner. Bon, ça c'est pour moi, le standard de Dieu ne doit jamais être dévalué. On ne peut pas commencer par dire que ce n'est pas possible ou c'est difficile. Quand on le dit, on est déjà vaincu. Ça, c'est le standard. Et avec l'aide du Seigneur, on y arrive. Alors, je vais prendre un exemple. Deutéronome, chapitre 17. Alors, dans le contexte, on parle du roi, des instructions que Dieu donnait pour le futur roi d'Israël. Je commence au verset 18. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et il lit tous les jours de sa vie afin qu'il apprennent à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son corps ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements. Donc ici, c'est un paradoxe. Le roi, il est élevé déjà. Mais Dieu demande que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères. Pourtant, il est déjà élevé. Donc ici, on est dans un paradoxe et il y a le problème de l'identité et de la fonction. Il faut séparer l'identité de la fonction. Et il me semble que dans le corps du Christ, l'une des situations qui cause problème, c'est la confusion entre l'identité et la fonction. Je vais prendre quelques illustrations bibliques. Deux Chroniques, chapitre 26. Il s'agit également d'un roi, le roi Ozias, qui a fait beaucoup de choses pour le Seigneur et le Seigneur a accompli beaucoup de choses également avec lui. Il est dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Donc ici, ça c'était le rôle du souverain sacrificateur. Ah pardon, je ne vous l'ai pas donné, c'est le verset 16, 2 Chroniques 16. Donc là, les fonctions étaient bien spécifiées. Vous aviez le roi, le sacrificateur, le souverain sacrificateur et le prophète. Donc là, je reprends, mais au verset 16, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Donc ici, les sacrificateurs veulent mettre le roi à sa place, hein, parce que le roi quitte sa place. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Donc là, il a été mis à l'écart de la société et c'est son fils qui a géré les affaires courantes jusqu'à sa mort. Donc ici, on voit le roi qui quitte sa place. Hein, donc c'est un peu le cas d'un responsable qui veut s'arroger toutes les fonctions. Ça peut arriver. Mais là, vous avez des gens qui essaient de le mettre à sa place. Bon, il est passé outre, et on voit les conséquences qui lui sont arrivées. Deuxième exemple, en Nombre 16, avec la révolte de Corée, que beaucoup connaissent. Nombre 16, c'est le quatrième livre de la Bible. Corée, fils de Jizéar, fils de Kehath, etc. Verset 1. Je fais comme si vous étiez dans ma tête. Donc, Corée se soulève. Tous trois fils de... Bon, je saute, hein, fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ?» Tous sont saints. Donc il invoque, effectivement, ils sont saints, puisque en tant que lévites, ils avaient des fonctions très particulières. Ils font partie de ceux qui... s'occuper de la tente d'assignation, on avait qui le portait, en fait il fallait être sanctifié pour le faire. Mais ici, ils veulent réclamer plus que leur fonction. Verset 4, quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage, il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, « Demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. » Et puis au verset 7, il dit, « Demain mettez-y du feu, et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfant de Lévi. » Donc ici, on voit que Moïse, Dieu l'avait qualifié d'homme le plus patient de la terre. Moïse a été suffisamment patient, mais là, il en a marre. Il dit, c'en est assez, enfant de Lévi. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfant de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'Assemblée pour la servir. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel, car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? En fait, ils n'étaient pas contents de leur situation. Particulier Corée. Donc, il voulait la charge d'Aaron, qui était le souverain sacrificateur. Donc, Moïse le confronte, le met à sa place, et finalement, les conséquences sont terribles. Au verset 30, il dit, « Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Donc ici, on est dans une situation où, tout à l'heure, on a vu le cas d'un responsable, n'est-ce pas, qui veut s'arroger toutes les responsabilités. Là, on est dans le cas de Poirot, des croyants qui estiment « je suis saint comme le pasteur, par exemple, hein, ou je suis saint comme tel autre. Pourquoi je n'ai pas droit à sa responsabilité ?» Ça aussi, là, on quitte sa place. Hein. Donc ici, le responsable, il met les autres, il met ceux qui veulent quitter leur place à leur place. Alors, on va voir un cas où ce n'est pas le cas. En Apocalypse 2, alors c'est le cas de l'église de Thyatire. Un exemple que nous connaissons bien, Apocalypse 2, verset 19. Donc le Seigneur parle à l'ange de Thyatire, au responsable de cette église. Au verset 19, il dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Donc ici, on a cette dame qui se dit prophétesse, donc elle usurpe un titre, une responsabilité. Mais ce qui se passe, c'est que le responsable laisse faire. Il ne la met pas à sa place. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Peut-être qu'elle est très influente, elle fait des prophéties. Donc, en tous les cas, elle prend de la place. Finalement, le responsable de l'église oublie la sienne. Hein, et laisse, au lieu de mettre cette dame à sa place, parce que le responsable de l'église, c'est lui qui rend compte. Hein, le Seigneur l'a désigné pour diriger ce groupe. Il devrait mettre cette femme à sa place. Elle est sous sa responsabilité, mais il laisse faire. Et donc, le Seigneur lui accorde quand même une chance, hein, puisqu'il lui dit, il lui demande quand même de changer. C'est une bonne chose pour lui. Et donc, quand le responsable de l'Église ne prend pas sa place et ne met pas la prétendue prophétesse à sa place, je veux dire qu'il y a un dysfonctionnement du corps. Hein? Donc on voit cette femme qui, donc elle peut faire de fausses prophéties, elle enseigne et séduit les serviteurs pour les amener à la débauche, ainsi de suite. Donc là, il y a un problème dans le corps. Quand chacun n'est pas à sa place, il y a un problème. L'autre exemple que je veux prendre, c'est celui de l'apôtre Pierre. Savons que l'apôtre Pierre, c'est quelqu'un qui avait une grande destinée, mais bon, il n'était pas parfait. Donc, Jean chapitre 21. Alors, pour dire le contexte, Le Seigneur lui montre dans quelles conditions il va le glorifier par sa mort. Donc au verset 20, il est dit « Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Donc ici, au lieu de se préoccuper de sa propre situation, il est préoccupé de savoir ce qui va arriver à l'autre. Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. Toi, reste à ta place. Toi, fais ce que je t'ai demandé de faire. » Donc ici, alors j'ai parlé de chacun reste à sa place. Il y en a qui ne prennent pas leur place. Il y a des cas où les gens quittent leur place et d'autres qui ne prennent pas leur place. Donc il faut prendre sa place. Formons le corps du Christ. Chacun a une responsabilité. Il faut pas simplement... J'ai vu des cas où des gens quittent leur place pour en prendre une autre. Mais ici, l'apôtre Pierre, comment dire, il ne cherche pas à prendre la place de l'autre, mais il ne prend pas la sienne. Et dans le corps, il y a des gens qui, par timidité, par fausse humilité, ou pour d'autres raisons, ne prennent pas leur place. Donc, il ne faut pas simplement ne pas quitter, mais il faut prendre sa place, identifier sa place dans le corps. Donc, chacun doit songer à prendre sa place. Et là, je vais aborder un autre point plus délicat, c'est qui nous amène à quitter nos places. C'est des cas de succès ou des cas de péché. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 4, verset 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Nous sommes des vases de terre. Pourtant, Dieu arrive à accomplir par nous de grandes choses et nous ne devons jamais oublier que nous sommes des vases de terre. Donc, je vais prendre deux situations différentes. En Actes chapitre 12, il y a le cas de Hérode. Il n'est pas un chrétien, mais ça illustre ce que je veux dire. Ce que les autres peuvent amener un croyant à quitter sa place. Actes chapitre 12. Alors, dans le contexte, au verset 20, Hérode a fait assassiner l'apôtre Jacques. Il a mis l'apôtre Pierre en prison. Bon, le Seigneur accomplit un miracle et le libère et il fait tuer les gardes. Au verset 20, Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord et, après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitaient la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers. Donc ici, on est dans une situation où les autres membres du corps peuvent pousser un autre membre à quitter sa place. Vous voyez, il peut arriver que, j'ai pris le cas de la mastication par exemple, quand on mange, les dents sont en action. Il n'y a que les dents qu'on voit. Vous voyez, mais les dents doivent rester à leur place. C'est-à-dire que j'ai pris cet exemple, quand je prends le cas du roi, par exemple, ben, les dents, quand il faut digérer, les dents n'ont rien à faire. Ils ne vont pas les digérer à la place. Ils restent à leur place. Et ici, les autres membres du corps ne disent pas à la dent, aux dents, quand il faut mastiquer, ben, tu es plus que tu es Dieu, quoi. Non. Ils restent à leur place. Donc ici, qu'est-ce qui se passe ? On peut être dans une situation donnée où un croyant ou une croyante est très en vue. Simplement pourquoi ? Parce que ses compétences sont nécessaires à un moment donné. À un moment donné. Mais après, il passe le relais. Après, c'est un autre. Il ne va pas chercher à faire tout. Il ne va pas s'élever. Il doit rester à sa place. Le Seigneur nous dit... L'homme qui est en honneur et qui manque d'intelligence est comme une brebis qu'on mène à la boucherie. Ça, c'est en psaume 49, 21. Donc ça, c'est important de se souvenir qu'on reste un vase de terre, un vase d'argile. Si j'arrive à accomplir des choses, je dois rester dans l'humilité parce que je ne dois pas oublier qui me fait roi. Je ne dois pas oublier que c'est le Seigneur, n'est-ce pas, qui m'amène à faire ces choses et que je reste un vase de terre. Le deuxième cas où nous avons besoin de nous souvenir que nous sommes des vases de terre et qui nous empêche de... Et dans lequel nous quittons très très facilement nos places, c'est quand un autre pêche. Et là, le péché est très très contagieux. Je vais commencer par lire le livre de Galates. Galates chapitre 6. Frères, verset 1. Si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends, et c'est là le plus important, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Quand un frère ou une sœur pêche, quand un membre du corps pêche, j'ai pris l'exemple de la dent tout à l'heure. Il nous arrive que par inadvertance, la dent blesse la langue ou la lèvre. Mais qu'est-ce qui se passe spontanément? Le corps tout entier, n'est-ce pas, compatit, aide, n'est-ce pas, à soigner les lèvres ou la langue. Mais personne n'en veut aux dents. De façon automatique, chacun prend sa place et le corps fonctionne. Donc, c'est comme ça qu'on devrait fonctionner. Bon, ça c'est une image. Bien sûr, on reste des vases d'argile. Et cette démarche automatique est difficile. Mais avec l'aide du Seigneur, on s'entraîne, et puis on y arrivera. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit ici? L'apôtre Paul dit, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Ça veut dire que quand un frère ou une sœur pêche, la façon dont j'aborde ou dont je vois les choses, si je rentre dans la critique, si je rentre dans la condamnation, je suis déjà dans le péché. Et une autre personne qui me voit par mon attitude, donc déjà j'ai été contaminé par son péché, hein, une autre personne qui me voit et qui n'apprécie pas mon attitude, qui ne renouvelle pas son intelligence, aura une attitude, je veux dire, de condamnation aussi vis-à-vis de moi, par exemple. Donc on voit que le péché, il y a une personne, une première personne qui a péché, ensuite j'ai péché par mon attitude, une deuxième personne. Donc le péché est quelque chose de contagieux. Et quand un frère ou une sœur pêche, nous avons le choix entre nous laisser contaminer et susciter une contagion successive ou de l'arrêter. Mais ça, nous devons, et c'est là que l'aspect vase de terre, considérer que nous sommes un vase de terre, je suis un vase de terre, ça c'est mon identité par rapport à ça. Je suis un vase de terre comme la personne qui pêche est un vase de terre. Donc je ne suis pas plus que cette personne. Ce qu'on a aussi vu dans la maison d'Élie. Hein, on est co-pêcheur. Donc si je pense que je suis aussi pêcheur, je vais aborder cette personne avec beaucoup plus de miséricorde. Hein, parce que tout membre du corps qui chute est une faiblesse pour le corps. C'est mauvais pour le corps. Donc je suis perdant de toutes les façons. Et donc le Seigneur nous invite à... On doit condamner le péché, mais ne pas juger, juger dans le sens de la condamnation. Hein, critique, condamnation. Romains 14 nous aide à voir ça. Mon frère ou ma soeur qui pêche, elle est un vase d'argile, comme moi je suis un vase d'argile. Le Seigneur Jésus est mort pour lui ou pour elle, comme il est mort pour moi. Cette personne est serviteur ou servante du Seigneur, comme moi, je le suis aussi. Alors le Seigneur nous rappelle dans Romains chapitre 14, au verset 4, il est dit, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Et au verset 13, il est dit, « Nous nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Donc, notre attitude est très importante. Et donc là, on peut aussi imaginer une situation à trois. Je vois un frère, une sœur qui pêche. Si je suis dans la confrontation avec cette personne, j'ai la tentation de condamner. Mais si j'introduis Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la tête du corps, qui attend de moi, qui a usé de moi miséricorde, qui attend de moi que j'use miséricorde, donc là, ça me permet de mieux gérer. En tous les cas, je ne suis pas dans la peur du père Fouettard, mais je considère la miséricorde que le Seigneur a eue pour moi et j'use de miséricorde vis-à-vis de l'autre. Et il y a une fonction délicate dans le corps qui est celui de prophète. C'est très, très compliqué. Le prophète est amené à prophétiser. Bien entendu, il peut exhorter, il peut encourager, mais il peut également dire des choses des choses à venir. Et là, c'est un ministère très délicat, où malheureusement, quand je suis dans le corps, un prophète qui est de passage, il doit dire rapidement les choses. Hein, est-ce que je dis ou pas? Alors que moi, si j'ai par exemple une révélation, je peux prendre le temps, plusieurs jours, pour m'interroger, Seigneur, est-ce que ça vient de toi ou pas? Mais le prophète, il est de passage, un dimanche, il reçoit un message, est-ce qu'il dit, est-ce qu'il ne dit pas? Ben, il se jette à l'eau, il dit. Il prend des risques. C'est très délicat parce qu'il peut dire des choses qui ne correspondent pas à la réalité en tous les cas. Donc, quelle attitude devons-nous avoir? Et là, il me semble que user de miséricorde, c'est très important. Mais il faut aussi avoir l'attitude, si on a l'occasion de revoir la personne, ou de s'en remettre au pasteur, de lui dire la vérité. C'est important parce que si un prophète il fait une prophétie, une deuxième prophétie qui se révèle fausse et qu'on ne lui dit pas, ben, il reste dans son erreur. Et c'est tout le corps du Christ qui en souffre. Donc quand on en a l'occasion, c'est de lui dire les choses. Bon, bien entendu, en y mettant les formes, c'est important. De façon à ce que ayant ces messages, une, deux prophéties qui ne vont pas, normalement il devrait venir aller au Seigneur et puis s'interroger, demander au Seigneur ce qui ne va pas, pourquoi en est-il ainsi. Et s'il n'a pas le cœur endurci, ben, il sera flexible, le Seigneur lui montrera en quoi ça ne va pas et comment il peut modifier les choses. Donc c'est d'aborder cela avec beaucoup de miséricorde, de compréhension, parce que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Nous sommes des vases d'argile. Personne n'est à l'abri. Et si nous tenons, c'est parce que le Seigneur nous permet de tenir. Vous vous souvenez de l'apôtre Pierre, quand le Seigneur lui dit « Satan t'a réclamé. Hein? » Donc l'apôtre Pierre, si le Seigneur ne l'avait pas défendu, il serait tombé. Et donc, important pour nous d'avoir cette attitude. Bien entendu, quand il y a une prophétie, il ne faut pas avoir aussi cette paresse d'aimer entendre des choses agréables. Quand on veut entendre des choses agréables, si on dit une prophétie qui nous flatte, bon, on va y croire parce qu'on est dans la facilité, mais la parole nous dit que les prophètes sont soumis aux esprits, les esprits sont soumis aux prophètes. Donc quand quelqu'un prophétise, c'est à l'assemblée d'analyser, de voir dans quel contexte, et si c'est déjà conforme à la parole, etc. etc. Donc, chacun doit aussi être à sa place dans l'analyse de la prophétie qui a été déclarée. Pas simplement l'accepter au gobé, simplement comme ça, puisque c'est un prophète. Donc, cela nous aide en considérant que je suis un vase d'argile, je me mets à ma place, mon identité, dans ce cas-là. Je mets aussi l'autre à sa place, vase d'argile. Voilà son identité. On a une co-identité. Et donc, en analysant sous ce regard, j'arrive à avoir la bonne attitude. Et Laurence Pépin, hier, a trouvé la bonne expression, c'est la marche par l'esprit, qui revient assez souvent. Quand on marche par l'esprit, on arrive à commettre le moins d'erreurs possible. Donc, Il est important pour nous d'avoir cette image de l'allégorie du corps du Christ. Je pense qu'on peut exploiter cette image, cette allégorie, de plusieurs façons et qui nous aide à bien voir comment fonctionner dans le corps du Christ. Je ne peux pas faire du mal à un autre membre du corps du Christ ou parler du mal à un autre membre du corps du Christ et aller prier le Seigneur Jésus. C'est incompatible. C'est incompatible puisque je fais du mal au corps du Christ. Je fais du mal à Christ. Donc, que chacun reste à sa place et mette l'autre à sa place. Ça nous aide à faciliter la vie dans le corps du Christ. Et donc, ça nous aide aussi dans notre vie professionnelle à rester à notre place. Si on apprend à rester à notre place dans le corps du Christ, cela nous aidera à rester à notre place dans le cadre professionnel. Les responsables ont une tâche à accomplir, je dois rester à ma place. Je ne suis pas habilité, par exemple, à critiquer mon patron. Bien sûr, il y a des gens qui ont la charge de le contrôler. Donc, c'est un domaine dans lequel on sort très facilement de notre place. Donc, quand on est dans la révolte ou la critique des responsables, je m'efforce en tous les cas, je n'y arrive pas toujours, de demander au Seigneur qu'est-ce que j'adopte comme attitude, parce que ce n'est pas évident. D'accord ? Donc, en faisant appel au Seigneur pour nous guider, ça nous permet de rester à notre place et d'avoir la bonne attitude. Donc, déjà dans le corps du Christ et dans les autres activités de la vie quotidienne. Donc, voilà ce que j'avais à partager. Que vos cœurs soient bénis.
Merci beaucoup, Ruben. Du coup, j'en profite pour rebondir, faire le lien entre ton message et l'appel de Sarah. Prenez votre place si vous sentez que vous êtes appelé à faire quelque chose dans le service de l'Église. La rentrée, c'est aussi l'occasion, effectivement, de s'investir, alors, de se réinvestir, d'investir quelque chose de nouveau. Effectivement, si vous sentez que ce soit à l'école du dimanche ou autre chose, n'hésitez pas à aller voir les différents responsables. Il n'y a pas que le pasteur, comme l'a dit Ruben. Donc voilà, franchement, je vous encourage à mettre ça aussi, prendre votre place.